RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Arco, la foire d'art contemporain de Madrid, et vous êtes à l'émission en français, donc à la technique Victor Rovira et Luis Pendón, et au micro et dans vos oreilles Inés Azagra et Guillermo Bravo. À la production, comme toujours, Cristina Dorado, et je suis avec Amalia Laurent et Élise Poitevin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la cofondatrice avec Anne Vimeux de Sissi.
Oui, donc Sissi Club.
Sissi Club, donc une galerie marseillaise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. C'est un projet un peu singulier. C'est un projet que Anne et moi avons créé en 2019 à la base, parce qu'on était diplômés d'histoire de l'art et donc on cherchait à devenir curatrice, commissaire d'exposition, donc à créer des expositions, et donc on a voulu créer un lieu. Donc à l'origine, c'est vraiment un lieu associatif dédié à la jeune création qu'on a créé quand on avait 25 ans à Marseille. Donc l'idée aussi, c'était de pas forcément aller à Paris et de créer en fait aussi à partir d'une autre ville en France une dynamique en fait dans l'art contemporain et un lieu dédié voilà à la jeune création. Et donc après, de fil en aiguille, on a créé quand même des liens hyper très intenses et très forts avec certains artistes qu'on a accompagnés longuement sur dans leur travail. Évidemment, il y a toujours eu un regard important pour nous sur les jeunes artistes issus de la scène locale.
Voilà, un peu de proximité,
on va dire. Bien sûr, mais en même temps, on n'est pas non plus très chauvine et l'idée non plus, c'est pas s'enfermer dans un localisme un peu restrictif. Et donc, on a évidemment toujours cherché. L'idée, c'était aussi de prendre les artistes marseillais et de les amener ailleurs, et en même temps aussi de faire venir à Marseille des artistes qu'on ne pouvait pas forcément voir. Et donc, il y a 2 ans, on a décidé, avec ce groupe d'artistes desquels on était de plus en plus proches, de constituer une galerie à proprement parler et de commencer à participer à des foires d'art contemporain dans le monde. De toute façon, c'est quelque chose qui semblait un peu nécessaire. C'est une ville incroyable dans laquelle je suis née, donc je suis très attachée. Mais qui évidemment a des limites, à des endroits, notamment dans la scène de l'art contemporain. Et donc pour nous, c'était aussi très agréable de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de rencontrer des projets dans lesquels on se retrouvait.
Ça n'a pas été compliqué de faire le switch d'un espace associatif à une galerie? Je trouve ça extrêmement risqué de prendre cette ampleur, oui, et de faire ce pas en avant.
De toute façon, nous...
De mon point de vue. Hein.
Oui, alors de toute façon, nous, ce projet est un risque. Je veux dire, on avait quand même aussi créé un projet, un espace d'exposition si jeune, sans subvention publique. Donc en fait, on a créé vraiment un espace. Mais en fait, à l'origine, du coup, pour nous, fait partie intégrante du projet l'idée de réfléchir à comment créer une économie, un écosystème en fait viable en fait aussi économiquement on n'a pas d'investisseurs. Donc c'était ça l'idée. Et donc en fait très vite, c'est quand même la question de la vente ou la question de l'économie a été des choses qu'on a beaucoup réfléchi, à la fois pour nous en tant qu'espace de comment on le fait vivre, mais aussi pour nous, ça faisait partie de notre rapport aux artistes, de comment les amener,
voilà, de votre
entre
identité
autres, oui, voilà, entre autres choses, de comment les amener en fait à concevoir la vente de leur travail et de les accompagner là-dedans et d'essayer de faire ça de la manière la plus juste et la plus la plus juste possible.
Amalia Laurent, merci d'être venue. Vous êtes ici pour présenter votre travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous avez présenté ici? Il faut savoir qu'à la radio, on doit être très descriptif. Donc sentez-vous libre d'exprimer de comment on pourrait décrire votre travail ici à Arco.
Alors j'ai été invitée pour faire une foire, la première foire de toute ma vie d'ailleurs. Et donc ça a été un exercice extrêmement difficile dans le sens où je n'ai jamais travaillé dans des espaces neutres. Je fais beaucoup de teintures sur tissu semi-transparent et ils sont en général toujours en dialogue avec l'espace dans lequel je les accroche.
L'espace est très important dans la conception de la scénographie.
Exactement. Et du coup, ça peut être en extérieur, mais dans des architectures. Et donc arriver dans un espace blanc... industrielle.
Oui.
Ça a été une énorme question et on a travaillé clairement toutes les trois ensemble pour essayer de comprendre cet espace-là d'une autre manière et de donner un autre regard sur un espace qui peut sembler vide, en fait. Et du coup, comme je suis musicienne aussi à côté, dans un orchestre de gamelan, qui est un instrument de musique javanais, ce rapport, en fait, c'est un instrument qui est assez particulier, puisque on est 15 musiciens à jouer en synchronicité, et du coup, aucun élément doit être détaché, sinon on ne fait pas de musique gamelan. Et il y a vraiment cette notion d'espace, puisque du coup, on prend beaucoup de place.
Et déjà 15 personnes,
voilà,
ça prend...
15 minimum. Oui. Donc imaginez, ça peut vraiment se décupler. Et finalement, je me suis dit, mais comment voilà, on remplit un espace. Ben, je pense que la musique gamelan le fait bien, parce que la musique, c'est invisible, on ne le voit pas, on l'entend seulement. Comment le représenter ? Ben, là, on le voit avec des métallophones, des gongs inversés, des objets très très lourds en bronze. Et bien là, pour cette exposition, on a fait un peu la même chose. On est parti d'un espace vide qui se remplit de notes invisibles, qui seraient des teintures, des pièces qui voilà, remplissent l'espace, dialoguent et en fait font écho à cet espace de blanc.
Je voulais vous demander, par rapport à la pratique que vous avez avec le tissu, le rapport au textile, cette matière que je trouve très intéressante, et aussi à l'importance de la translucidité, de cette transparence.
Très bonne question.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin le voilà. Sujet, le regard.
Oui, parce que de toute façon, moi je pense, je pars du principe que dans mon travail, faire une œuvre, c'est diriger un regard. Quelque part, c'est comme un cadre qui permet de regarder au travers. Et du coup, mon travail textile, comme il est presque translucide, on le voit presque pas, on peut même passer et ne pas voir.
Pas tout à fait.
Elise qui
oui.
Fait des têtes.
Mais en tout cas, il y a cette idée que, en fait, dès qu'il y a un tissu, on regarde au travers et on regarde finalement ce qui se passe derrière et plus vraiment le tissu. Et que c'est juste une bonne excuse pour tourner la tête à un certain endroit. Et donc voilà, ça c'est un peu mon travail. Et la notion de tissu, elle est hyper importante aussi dans ma pratique, tout simplement parce que je suis fascinée par la technique de teinture batik, qui est une technique que je connais très bien puisque je suis à demi indonésienne, j'ai été élevée par ma maman indonésienne, et ça a fait partie de toute ma vie en fait. Elle me portait avec des tissus, enfin voilà. Et du coup, à un certain moment de ma vie, je suis partie en Indonésie pour apprendre cette technique de manière hyper traditionnelle. Et de plus en plus, je m'en suis émancipée, et, tout en continuant à travailler avec cette personne-là, qui s'appelle Mastatin, et qui est une personne géniale. Mais voilà, il y a tout ce travail aussi sur ce que ça signifie, le territoire que contient un tissu, parce que les motifs aussi révèlent une certaine identité. Tous ces glitchs, en quelque sorte, oui. Qui nous permettent de se dire, en fait, on est en dehors de ce tissu, et pourtant, il englobe toute la partie qu'on est en train de regarder.
Oui, tout à fait.
Et du coup, ça permet un espèce de retour en arrière, puisqu'il y a ces raies-là qui arrivent. Et c'est toujours cette ambiguïté entre se tenir en face et être absorbé par ce qui se passe lorsqu'on regarde.
Parce qu'après, il y a aussi deux ou trois sculptures.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Bien sûr. Alors, c'est des instruments qui s'appellent angklung et qui sont des instruments utilisés notamment dans les processions en Indonésie, parce que c'est en bambou, donc très facilement déplaçable, dans les rues, dans les rizières, etc. Et ce qui fait sa spécificité, c'est le fait qu'un instrument corresponde à une note et à une personne. Et du coup, pour faire de la musique, il faut beaucoup, beaucoup de personnes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de comprendre un espace qui est invisible, en quelque sorte, comment le montrer. Là, avec les angklung, on le voit très bien, puisqu'il y a 100 personnes devant nous, et donc on comprend très bien que l'espace de la musique, c'est celui de ces 100 personnes qui possèdent chacun une note.
Incroyable. Donc vous avez, on va dire, c'est les tissus, il y a aussi de l'argile, il y a la musique, l'art sonore. D'où vient votre inspiration ? C'est bête comme question, mais qu'est-ce qui vous inspire le plus ?
Très difficile. Question très très difficile. Je ne sais pas tout. En fait, j'ai l'impression que pour tous les artistes, c'est la même chose. On regarde tout le temps, on travaille tout le temps. Voilà.
Et depuis quand vous connaissez Élise ?
Depuis plusieurs années maintenant.
Oui, en fait, Amalia, le premier lien de travail qu'on a eu avec Amalia date en fait de d'une exposition qui a été curatée uniquement par Anne. En fait, c'est quand même une artiste qui a été découverte par Anne Vimeux, en tout cas dans notre petit duo. Donc, je lui rends cette voilà. Et donc cette exposition s'appelait Arcadia et elle traitait entre autres choses vraiment d'un rapport au territoire et à l'idée d'un territoire et à l'idée un peu fantasmagorique du territoire et de tout ce qui peut avoir attrait à ce mot. Et elle a été assez fascinée par le travail d'Amalia, elle m'en a beaucoup fait part. Et donc elle l'a invitée pour cette exposition collective il y a 2 ans. Donc c'est comme ça que a commencé donc cette collaboration. Et puis donc moi aussi, évidemment, quand j'ai découvert son travail, mais du coup beaucoup aussi à travers les yeux d'Anne, j'ai été aussi moi très admirative et très conquise par toutes ses recherches en fait. Et pour répondre aussi un petit peu à ce qui me semble être son inspiration, ou en tout cas quelque chose de très important dans son travail par rapport à ses tissus. Et qui en tout cas moi m'a beaucoup touchée, c'est que cette superposition en fait de ces textiles qui reprennent en fait les motifs du paysage ou de l'architecture dans lesquels ils sont censés s'insérer amène en fait à la fois une disparition mais pas vraiment. Et donc je me rappelle, je crois que j'avais lu un texte d'elle où elle parlait de d'une sorte de dimension, de portail, quelque chose en fait, une sorte de petite vibration en fait entre un paysage et sa pièce qui amène en fait à percevoir une sorte d'entre-deux, entre une absence et une présence, entre le réel et au-delà. Et je trouvais que cette manière si subtile et si discrète d'évoquer en fait quelque chose de si grand était extrêmement belle.
Merci beaucoup Élise Poitevin et Amalia Laurent de vous rendre disponible pour l'émission en français.
Merci à vous.
Je suis avec Jean Frémont, qui est propriétaire, fondateur et directeur de la galerie Le Long, une des plus intéressantes de cette édition de Arco et aussi une de celles qui est présente depuis le plus longtemps, même depuis la première édition.
C'est 1982.
Exactement, depuis 1982. La galerie Le Long se trouve au stand 9B10 de cette foire Arco. Et aujourd'hui, nous sommes avec son fondateur, comme on disait, pour la présenter et pour parler de l'offre qui sont venues nous présenter. Bonjour Monsieur Frémont, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien. C'est toujours un plaisir d'être à Madrid.
Le plaisir est nôtre de vous accueillir ici. Et je voulais commencer par vous demander, parce qu'on disait que c'est une des galeries les plus intéressantes et avec des œuvres des plus réputées dans cette édition. Je voulais commencer par que vous nous parliez de cette sélection que vous avez choisie pour emmener ici.
Écoutez, la pièce la plus importante qui est sur notre stand est un très grand tableau de Tapies. On a choisi d'apporter un grand tableau cette fois-ci. On travaille avec Tapies depuis 60 ans, peut-être plus. On a choisi d'apporter un très grand tableau cette année parce que c'est l'année de son centenaire. Il a une grande exposition au musée Reina Sofia. C'est vraiment l'année de Tapies. C'est un peu son grand retour sur le marché qui a été un peu ingrat avec lui depuis quelques années. En tout cas, depuis sa mort. Mais les choses sont en train de se retourner et il est de nouveau apprécié à sa valeur. D'ailleurs, ce grand tableau a été vendu tout de suite dès le début dès l'ouverture de la foire.
Alors bon, Anthony Tapies n'est pas le seul des artistes espagnols que vous présentez. Il y en a aussi qui sont un peu plus récents. Sur ça, je voulais vous demander, est-ce que l'art espagnol est apprécié ? Et si vous pouvez profiter de l'occasion pour nous parler aussi des autres artistes espagnols qui sont présents parmi votre collection.
Alors, on a toujours en effet c'est une tradition dans la galerie de travailler avec des artistes espagnols qu'on représentait depuis longtemps. On a travaillé pendant des années avec Miro. On continue à travailler avec la succession, avec la famille de Miro, avec Chilida, mais parmi les plus jeunes, celui que nous venons d'exposer en ce moment à Paris, pour la troisième fois, c'est Juan Housley, qui est un très bon artiste, qui est aussi, que nous montrons également dans notre galerie de New York, qui est un artiste qui prend maintenant, il a maintenant 70 ans, il est arrivé à une grande maturité dans son travail, et c'est aussi largement reconnu dans le monde entier, il expose à peu près dans tous les pays d'Occident, en tout cas.
Donc on peut dire que l'art espagnol triomphe ou est apprécié non, au niveau
absolument,
international.
Absolument, de façon parfaitement internationale. Aux États-Unis, c'est le cas aussi. Enfin, il est bien connu. Il vit une partie de l'année, Juan Usley, il vit une partie de l'année à New York. Donc c'est normal qu'il soit bien représenté là.
Oui, on ne l'avait pas dit, mais c'est vrai que vous avez un siège à Paris, mais aussi à New York.
C'est ça.
De l'autre côté.
Depuis les années 70.
Et bon, on est venu parler de Le Long surtout. Donc je voulais vous demander quel est le signe d'identité de Le Long ou quel est le paradigme de cette galerie ou quel est le critère que vous utilisez à l'heure d'acheter des pièces ou de composer votre collection?
Ça, c'est un peu difficile à dire parce que c'est une galerie ancienne. On essaie évidemment de renouveler régulièrement, de faire entrer régulièrement des nouveaux artistes. Nouveau ne veut pas dire forcément jeune, mais ça n'exclut pas des jeunes non plus. Tout simplement pour ne pas devenir, avec le temps, des antiquaires. On ne veut pas devenir des antiquaires, mais rester dans l'art contemporain.
Voilà.
Et en même temps, on ne veut pas lâcher la relation historique avec des artistes plus anciens de l'art moderne, comme Miro, comme Chillida ou Tapies. Donc c'est un exercice d'équilibriste un peu pour maintenir les deux à la fois. Mais bon, je crois qu'on y parvient. Et sur le stand, on a comme ça un choix d'artistes internationaux. Alors, il n'y a pas une ligne esthétique très précise. On n'est pas les défenseurs d'un style, d'un type d'art. On essaie au contraire d'avoir des artistes qui sont complémentaires et différents les uns des autres. Et si possible parmi les plus importants. Alors David Hockney par exemple est vraiment un des artistes les plus célèbres et les plus connus du siècle. Il a maintenant 86 ans et je travaille avec lui de manière très serrée. Enfin, il s'est installé en France il y a quelques années, pas loin de chez moi en Normandie où j'avais une maison, donc je le voyais tous les trois jours.
Et comment est-ce qu'on arrive à voir des David Hockney ou des John Miro ou des Chillida?
Ah, écoutez, je ne sais pas, j'ai fait ça toute ma vie. Il faut de l'insistance, de l'obstination, peut-être un peu de charme, peut-être un peu d'intelligence, je suppose.
Du bon goût aussi, peut-être.
Du bon goût, sans doute. Il faut en tout cas sincèrement s'intéresser à leur travail et qu'ils le comprennent. Pour ça, il faut être avec eux, présent dans toutes les expositions, partout dans le monde où ils sont. Il faut se déplacer, il faut être là. Il faut montrer que l'intérêt est réel et pas simplement simulé. Et les artistes comprennent très bien qui sont les gens qui s'intéressent sincèrement et réellement à leur travail et qui sont à leur écoute. Ils ont besoin de ça.
Je pense que ce que vous disiez de ne pas aborder cela comme un banquier ou comme un investisseur, mais comme quelqu'un avec du goût pour l'art, aide beaucoup.
Alors il y a un artiste espagnol que nous n'avons pas encore cité et qui est absolument central sur notre stand et dans l'économie de la galerie, c'est Jaume Plensa, dont les madrilènes peuvent
on le connaît très
apprécier
bien,
Julia qui est sur la Plaza Colón. C'est quelqu'un avec qui nous travaillons dans le monde entier. Nous avons installé des œuvres de Plensa en Chine, au Japon, en Indonésie, au Mexique, au Canada, partout. C'est quelqu'un qui a maintenant acquis une notoriété internationale de très grand niveau et c'est un très grand professionnel. Il n'y a pas beaucoup de grands sculpteurs capables de traiter des commandes pour des pièces de 5, 10, 15, 20 mètres de haut dans des places publiques, dans des espaces publics. Il faut maîtriser l'échelle, maîtriser les matériaux et Plensa est quelqu'un qui fait ça à merveille, en plus évidemment de son inventivité esthétique.
Oui, et en plus surtout que c'est un artiste qui joue beaucoup sur la perspective et lorsqu'on atteint des plus grands volumes, c'est encore plus difficile.
C'est très difficile d'avoir le sens de l'échelle, c'est une qualité très particulière et il l'a.
En tout cas, si quelqu'un aime Plensa, vous pouvez savoir que la galerie Le Long a une pièce presque au centre de leur galerie.
Absolument.
Ici. De Plensa pour qu'il puisse l'avoir. Et bon, Arco, c'est une foire avec une longue histoire que vous connaissez très bien parce que vous avez été ici depuis le début. C'est une des foires d'art contemporain les plus importantes d'Europe et aussi du monde. Mais je voudrais connaître votre point de vue sur Arco. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à toutes les éditions et pourquoi j'espère que vous viendrez aussi l'année prochaine?
On viendra sûrement l'année prochaine. Ben écoutez, nous avions en 82, quand la foire a commencé, nous avions déjà, en effet, comme je viens de vous le dire, beaucoup d'artistes espagnols, donc c'était naturel de venir ici. On avait déjà une histoire, une relation avec les collectionneurs espagnols. Il se passe que jusqu'à la mort de Franco, à Madrid, il y avait peu de représentations des artistes espagnols, parce qu'il y avait quelques artistes officiels, mais des artistes comme Miró et Tapies, les Catalans, refusaient d'exposer à Madrid. Chillida, qui était basque, pour les mêmes raisons, refusait d'exposer à Madrid. Et les collectionneurs espagnols qui souhaitaient acheter ces artistes venaient à Paris, chez nous, pour les acheter. Et ils allaient à la galerie Luis Leiris pour acheter Picasso et Juan Gris et quelques autres artistes espagnols. Donc, nous avions déjà une vraie relation avec le marché de Madrid, avec les collectionneurs espagnols. C'était naturel de venir. Et ça a marché très bien tout de suite. Et donc, on a continué depuis 42 ans. On n'a jamais manqué une édition d'Arco.
Uh-huh. Donc, on vous reverra sûrement pour la 43e.
Certainement.
Mais
certainement.
Avant de partir, quelqu'un nous a dit que vous étiez aussi un prolifique écrivain et que vous présentez aussi un livre ici, un livre qui s'appelle Le Miroir Magique. La traduction espagnole, c'est L'Espejo Mágico, de l'éditorial Elba. Et vous avez aussi écrit, comme nous disions avant, des livres sur beaucoup de choses, dont sur l'œuvre de David Ogney. Mais je voulais simplement vous donner l'espace pour présenter ce livre, Le Miroir Magique, et que vous le recommandez à nos auditeurs.
Ah, c'est gentil. Écoutez, c'est pas un livre d'écrit sur l'art, c'est pas une critique d'art ou une analyse de l'art. C'est un livre de fiction, ce sont des petites histoires, des fables, mais qui portent toutes sur le thème du portrait, des portraits peints par des artistes réels ou des artistes imaginaires. Ce sont des textes de fiction qui racontent des petites histoires sur des portraits. Voilà. Le livre est en effet à la librairie de la foire, je l'ai vu tout à l'heure.
Exactement. Bah, si vous avez le temps de venir encore à Arco pour regarder le stand dans lequel il exposait à temps, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le chercher. C'est Le Miroir Magique, nous répétons, éditorial Elba, de Jean Frémont. Et nous vous remercions beaucoup pour votre participation à l'émission.
C'est moi qui vous remercie.
On se retrouvera l'année prochaine.
Merci,
sûrement.
À bientôt, avec plaisir.
À très bientôt. Au revoir.
Bonjour à tous et à toutes, je suis avec Joana Hurtado Mateu de nouveau, après plusieurs mois. Comment tu vas ?
Très bien.
Merci.
Très, très fatiguée, mais très bien.
Vous êtes maintenant la directrice artistique de la galerie Mayoral.
La galerie Mayoral, c'est une des galeries les plus fortes ou potentes qu'il y a à Barcelone maintenant.
Tout à fait.
Ils ont bossé comme des fous pour avoir ce lieu et cette importance. Avec surtout des artistes de la post-guerre espagnole. Donc c'est très historique, c'est un poids vraiment très historique. Et du coup, ils ont décidé d'ouvrir un nouveau espace dédié à l'art contemporain. Et c'est là qu'ils ont venu me chercher et ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu ferais ?» Et ils m'ont montré l'espace, c'est un espace impressionnant, immense. Il est très grand pour être au milieu de Barcelone. Ils l'ont restauré, plus que restauré, ils ont vidé complètement tout ce qu'il y avait. C'est, plus concrètement, c'est Jorge Vidal, le studio Jorge Vidal, qui a décidé de faire ce nettoyage et de laisser que la structure. Donc c'est vraiment que le squelette qu'on voit. J'ai commencé à idéer, à penser des idées. On a commencé à partager et ils ont dit « Écoute, fais-le ».
Allez. Bah, félicitations.
Merci.
Déjà. Nous sommes rencontrés, il faut le dire, à Matadero pour l'exposition Periferia de la Noche, rétrospective d'Api Chapón. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que les galeries peuvent apporter aux artistes de nos jours ?
Tout, presque tout. Ils bossent beaucoup, la galerie. C'est vraiment une pièce de structure que parfois on pense qui est seulement celle qui vend ou qui est dédiée au marché. Et ce n'est pas du tout ça. C'est en fait ma figure. C'est assez exceptionnel ou assez rare ou bizarre dans la scène espagnole parce que ce n'est pas souvent qu'une galerie prend quelqu'un qui porte la direction artistique. C'est quoi une direction artistique dans une galerie ? Je fais un peu ce que je faisais avant comme directrice d'une institution publique. C'est-à-dire, je pense à la programmation générale, je pense à une ligne éditoriale, on pense, etc. Mais il y a une chose très, très, très importante, que c'est de penser aux artistes. Penser qu'est-ce qu'ils ont besoin. de quoi ils ont besoin.
De quoi ils ont besoin, les artistes de nos jours?
Alors, ils ont besoin, évidemment, d'argent, c'est-à-dire d'argent pas seulement pour eux, c'est-à-dire pas seulement des honoraires, mais aussi de production, disons, comment je fais pour faire.
Pour arriver, pour faire.
Pour faire tout ce que je fais, tous les matériaux, etc. Comment je fais pour avoir de l'espace pour faire, pour créer. Donc aussi un studio, des résidences ailleurs, etc. Comment je fais pour m'inspirer. Non, c'est déjà aussi un contenu ou des voyages, etc. Et aussi, quand j'ai toutes ces conditions optimes pour créer, après ça, comment je fais pour montrer cet art, non ? Et c'est-à-dire, voilà, l'espace, un espace où pouvoir le montrer, mais aussi des expositions, des rétrospectives, des grandes et belles expositions dans d'institutions publiques. Donc, c'est un peu tout ça ce que je vais bien faire. Et aussi, voilà, un peu penser au... Ici, on parle de buenas prácticas, des...
Bonnes pratiques,
bonne
pratique. Pourrait le traduire.
Donc, les institutions publiques, ils ont déjà ce discours des bonnes pratiques, mais dans les galeries, c'est pas très souvent qu'on en parle. Et moi, je commence un peu à en parler aussi. Donc voilà, il faut que l'artiste aille de l'argent pour production, que pour production. Et après, on parlera de bouger cette production.
La création a besoin de temps aussi. C'est pas évident parfois pour les artistes avec autant de promotions, de parcours, enfin de foires. Mais on n'a pas beaucoup de temps et je voudrais savoir quelle est la sélection que vous avez apportée à Mayoral ici pour Arco. Qu'est-ce qu'on peut retrouver?
Alors là, on a un stand avec Maria Prats. C'est une artiste catalane qui a fait un projet tout nouveau et très expérimental pour elle, qui a consisté en... sa copine était enceinte et c'était tout le temps qu'elle a dédié à l'attente, non ? Cette attente avant
l'accouchement.
L'accouchement, voilà. Et voilà, donc pendant tout ce temps, elle a bossé dans plusieurs œuvres, mais il y a surtout deux. Un, c'est un horloge qui est traversé par une ligne de néon, de lumière rouge, qui est un peu le cordon ombilical. Et après l'autre qui est vraiment l'accouchement. Et voilà, c'est un peu cette idée du temps et des comment on dit, capas.
Couches,
voilà, c'est ça.
Couches de peinture,
voilà,
de temps.
Tout ce temps qui s'accumule et qui finalement devient une peinture.
Dernière question, est-ce qu'il y a des artistes français ou francophones?
Alors, Comme tu le sais, moi j'adore, je suis très 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 francophone, très liée à la France ou à l'Europe en général. Et je crois qu'il y a plein de francophonie ailleurs, non seulement à France. Et moi je vais apporter, mais pour l'instant non, parce que je suis à peine arrivée. Et il y a une copine à moi qui est spécialiste avec l'artiste ou l'art du sud global. Donc moi j'apporte plus le côté plus européen et voilà, maintenant il y a une expo qui s'appelle avec le titre Mater et avec des artistes de Colombie, Mexique, Argentine et Catalane, donc et brésilien. Donc du coup on a commencé avec ça et après
on verra
peu à peu. Voilà.
Venez visiter la galerie Mayoral à Arco. Merci Joan Hurtado.
Merci beaucoup à Javier López pour son aide dans le montage et nous vous laissons maintenant avec Louise Robert Murphy et sa version de la chanson de Eddie Mitchell, Couleur Mentalo. A très bientôt Inès.
A très bientôt Guy, merci à tous nos invités et très bon week-end.
Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Ba-da-da-da. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, chercher du regard en spot le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdue dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Marcher comme un chat qui méprise sa proie, en frôlant le flipper, La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Oh, 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 elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalos, Hollywood est dans sa tête. Toute seule, elle répète son entrée dans un studio. Des cœurs couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi, je suis de trop. Mais un type est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Balalala. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Ah, ah, ah. La fille aux yeux mentalo a rangé sa mégalo et s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Gracias. Merci à vous.